Chapitre 6. Notre infortuné se prosterna à quatre pas de la déesse et lui parla de la sorte. « Reine des amours et des grâces, voici cette malheureuse esclave que vous cherchez. Je ne vous demande pour récompense de l'avoir livrée que la permission de vous regarder. Si ce n'est point sacrilège à une misérable mortelle comme je suis de jeter les yeux sur Vénus et de raisonner sur les charmes d'une déesse, je trouve que l'aveuglement des hommes est bien grand d'estimer en moi de médiocres appas après que les vôtres leur ont paru. Je me suis opposé inutilement à cette folie. Ils m'ont rendu des honneurs que j'ai refusés et que je ne méritais pas. Votre fils s'est laissé prévenir à ma faveur par les rapports fabuleux qu'on lui a faits. Les destins m'ont donné à lui sans me demander mon consentement. En tout cela, j'ai failli, puisque vous me jugez coupable. Je devais cacher les traits qui étaient cause de tant d'erreurs. Je devais les défigurer. Il fallait mourir, puisque vous m'aviez en aversion. Je ne l'ai pas fait. Ordonnez-moi des punitions, si sévères que vous voudrez. Je les souffrirai sans murmure, trop heureuse, si je vois votre divine bouche s'ouvrir pour prononcer l'arrêt de ma destinée. » « Oui, Psyché, repartit Vénus, je vous en donnerai la plaisir. Votre feinte humilité ne me touche point. Il fallait avoir ces sentiments et dire ces choses devant que vous fussiez en ma puissance. Lorsque vous étiez à couvert des atteintes de ma colère, votre miroir vous disait qu'il n'y avait rien à voir après vous. Et maintenant que vous me craignez, vous me trouvez belle. Nous verrons bientôt qui remportera l'avantage. » Ma beauté ne saurait périr et la vôtre dépend de moi. Je la détruirai quand il me plaira. Commençons par ce corps d'albâtre dont mon fils a publié les merveilles et qu'il appelle le temple de la blancheur. Prenez vos sillons, fille de la nuit, et me l'empourprez si bien que cette blancheur ne trouve pas même un asile en son propre temple. À cet ordre si cruel, Psyché devint pâle et tomba aux pieds de la déesse, sans donner une marque de vie. Cythérée se sentit émue, mais quelque démon s'opposa à ce mouvement de pitié et la fit sortir. Dès qu'elle fut hors, les ministres de sa vengeance prirent des branches de myrte, et se bouchant les oreilles ainsi que les yeux, elles déchirèrent l'habit de notre bergère. Innocent habit, hélas, celle qu'il avait donnée lui croyait procurer un sort que tout le monde envierait. Psyché ne reprit ses sens qu'aux premières atteintes de la douleur. Le vallon retentit des cris qu'elle fut contrainte de faire. Jamais les échos n'avaient répété de si pitoyables accents. Il n'y eut aucun endroit d'épargner dans tout ce beau corps qui, devant ces moments-là, se pouvait dire en effet le temple de la blancheur. Elle y régnait avec un éclat que je ne saurais vous dépeindre. Là, les lys lui servaient de trône et d'oreiller. Des escadrons d'amour chez Psyché familier furent chassés de cet asile. Le pleurer leur fut inutile. Rien ne put attendrir les trois filles d'enfer. Leurs cœurs furent d'acier et leurs mains furent de fer. La belle eut beau souffrir, il fallut que ses peines allassent jusqu'au point que les sœurs inhumaines ne craignirent que Coloton ne survint à son tour. Ah, trop impitoyable amour! En quels lieux étais-tu? Dis, cruel, dis, barbare, c'est toi, c'est ton plaisir qui causa sa douleur. Oui, tigre, c'est toi seul qui t'en dois dire auteur. Psyché n'eut rien souffert sans ton courroux bizarre. Le bruit de ses clameurs s'est au loin répandu et tu n'en as rien entendu. Pendant tous ces tourments, tu dormais, je le gage, car la brûlure n'était rien. La belle en a souffert mille fois davantage sans l'avoir mérité si bien. Tu devais venir voir empourprer cet albâtre. Il fallait amener une troupe de riz. des souffrances d'un corps dont tu fus idolâtre, vous seriez tous divertis. Non, hélas, à moi j'ai tort, tu répandis des larmes quand tu eus de Psyché la peine et le tourment. Et tu lui fis trouver un baume pour ses charmes qui la guérit en un moment. Telle fut la première peine que Psyché souffrit. Quand Cythérée fut de retour, elle la trouva étendue sur les tapis dont cette chambre était ornée, près d'expirer n'en pouvant plus. La pauvre Psyché fit un effort pour se lever et tâcha de contenir ses sanglots. Cythérée lui commanda de baiser les cruelles mains qu'il avait mises en cet état. Elle obéit sans tarder et ne témoigna nulle répugnance. Mais comme le dessein de la déesse n'était pas de la faire mourir si tôt, elle la laissa guérir. Parmi les servantes de Vénus, il y en avait une qui trahissait sa maîtresse et qui allait redire à l'amour le traitement que l'on faisait à Psyché et les travaux qu'on lui imposait. L'amour ne manquait pas d'y pourvoir. Cette fois-là, il lui envoya un baume excellent par celle qui était de l'intelligence, avec l'ordre de ne point dire de quelle part, de peur que Psyché ne crût que son mari était apaisé et qu'elle n'en tira des conséquences trop avantageuses. Le dieu n'était pas encore guéri de sa brûlure et tenait le lit. L'opération de son baume irrita Vénus, à l'insu de qui la chose se conduisait, et qui, ne sachant à quoi imputer ce miracle, résolut de se défaire de Psyché par une autre voie. Sous l'une des deux montagnes qui couvraient à droite et à gauche cette maison était une voûte aussi ancienne que l'univers. Là sourdait une eau qui avait la propriété de rajeunir. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fontaine de Jouvence. Dans les premiers temps du monde, il était libre à tous les mortels d'y aller puiser. L'abus qu'ils firent de ce trésor obligea les dieux de leur en ôter l'usage. Pluton, prince des dieux souterrains, commit à la garde de cette eau un dragon énorme. Il ne dormait point et dévorait ce qui était si téméraire que d'en approcher. Quelques femmes se hasardaient, aimant mieux mourir que de prolonger une carrière où il n'y avait plus ni beau jour ni amant pour elles. 5 ou 6 jours étant écoulés, Cythérée dit à son esclave « Va-t'en tout à l'heure à la fontaine de Jouvence et m'en rapporte une cruchée d'eau. Ce n'est pas pour moi, comme tu peux croire, mais pour 2 ou 3 de mes amis qui en ont besoin. Si tu reviens sans apporter de cette eau, je te ferai encore souffrir le même supplice que tu as souffert. » Cette suivante dont j'ai parlé, qui était au gage de Cupidon, l'alla avertir. Il lui commanda de dire à Psyché que le moyen d'endormir le monstre était de lui chanter quelques longs récits qui lui plussent premièrement et puis l'ennuyassent, et sitôt qu'il dormirait, qu'elle puisât de l'eau hardiment. Psyché s'en va donc avec sa cruche. On osait approcher de l'antre de plus de 20 pas. L'horrible concierge de ce palais en occupait la plupart du temps l'entrée. Il avait l'adresse de couler sa queue contre des broussailles, en sorte qu'elle ne paraissait point. Puis, aussitôt que quelque animal venait à passer, fût-ce un cerf, un cheval, un bœuf, le monstre la ramenait en plusieurs retours et en entortillait les jambes de l'animal avec tant de soudaineté et de force qui le faisait trébucher et se jetait dessus, puis s'en repaissait. Peu de voyageurs s'y trouvaient surpris. L'endroit était plus connu et plus diffamé que le voisinage de Scylla et de Charybde. Lorsque Psyché alla à cette fontaine, Le monstre se réjouissait au soleil, qui tantôt dorait ses écailles, tantôt les faisait paraître de 100 couleurs. Psyché, qui savait quelle distance il fallait laisser entre lui et elle, car il ne pouvait s'étendre fort loin, le sort l'ayant attaché avec des chaînes de diamants, Psyché, dis-je, ne s'effraya pas beaucoup. Elle était accoutumée à voir des dragons. Elle cacha le mieux qu'il lui fut possible sa cruche et commença mollement ce récit et mélodieusement. Dragon, gentil dragon à la gorge béante, je suis messagère des dieux. Ils m'ont envoyé en ces lieux et annoncé que bientôt une jeune serpente et qui change au soleil de couleur comme toi viendra partager ton emploi. Tu te dois ennuyer à faire cette vie. Amour t'enverra compagnie. Dragon, gentil dragon, que te dirais-je encore qui te chatouille et qui te plaise? Ton dos reluit comme fin or, tes yeux sont flambants comme braise. Tu te peux rajeunir sans dépouiller ta peau. Quelle félicité d'avoir chez toi cette eau. Si tu veux t'enrichir, permets que l'on y puise. Quelque tribut qu'il faille, il te sera porté. J'en sais qui, pour avoir cette commodité, donneront jusqu'à leur chemise. Et Psyché chanta beaucoup d'autres choses qui n'avaient aucune suite, et que les oiseaux de ces lieux ne purent par conséquent retenir ni nous les apprendre. Le dragon l'écouta d'abord avec un très grand plaisir. À la fin, il commença à bâiller et puis s'endormit. Psyché prend vite l'occasion. Il fallait passer entre le dragon et l'un des bords de l'entrée. À peine y avait-il assez de place pour une personne. Peu s'en fallut que la belle de frayeur qu'elle eut ne laissa tomber sa cruche, ce qui eût été pire que la goutte d'huile. Ce dormeur-ci n'était pas fait comme l'autre. Son courroux et ses remontrances, c'était de mettre les gens en pièces. Notre héroïne vint à bout de son entreprise par un grand bonheur. Elle emplit sa cruche et s'en retourna triomphante. Vénus se douta que quelque puissance divine l'avait assistée. De savoir laquelle, c'était le point. Son fils le bougeait du lit. Jupiter, ni aucun des dieux, n'aurait laissé Psyché dans cet esclavage. Les déesses seraient les dernières à la secourir. Mais ne t'imagine pas en être quitte, lui dit Vénus. Je te ferai des commandements si difficiles que tu manqueras à quelqu'un, et pour châtiment, tu endureras la mort. Va me quérir de la laine de ces moutons qui paissent au-delà du fleuve. Je m'en veux faire un habit. C'étaient les moutons du soleil. Tous avaient des cornes, furieux au dernier point, et qui poursuivaient les loups. Leur laine était d'une couleur de feu si vif qu'il éblouissait la vue. Ils paissaient alors de l'autre côté d'une rivière extrêmement large et profonde qui traversait le vallon à 1000 pas ou peu plus de ce château. De bonne fortune pour notre belle, Junon et Cérès vinrent voir Vénus dans le moment qu'elle venait de donner cet ordre. Elle lui avait déjà rendu 2 autres visites depuis la maladie de son fils et avait aussi vu l'amour. Cette dernière visite empêcha Vénus de prendre garde à ce qui se passerait et donna une facilité à notre héroïne d'exécuter ce commandement. Sans cela, il aurait été impossible, n'y ayant ni pont, ni bateau, ni gondole sur la rivière. Cette suivante, qui était de l'intelligence, dit à Psyché, « Nous avons ici des signes que les amours ont dressés à nous servir de gondole. J'en prendrai un. Nous traverserons la rivière par ce moyen. Il faut que je vous tienne compagnie pour une raison que je vais vous dire. C'est que ces moutons sont gardés par deux jeunes enfants sylvains qui commencent déjà à courir après les bergères et après les nymphes. Alors je passerai la première et amuserai les deux jeunes faunes qui ne manqueront pas de me poursuivre sans autre dessein que de folâtrer, car ils me connaissent et savent que j'appartiens à Vénus. Au pis-aller, bon, j'en serai quitte pour deux baisers, et vous passerez cependant. Jusque-là, voilà qui va bien, repartit Psyché, mais comment approcherai-je les moutons? Me connaissent-ils aussi? Savent-ils que j'appartiens à Vénus? Non, vous prendrez de leur laine parmi les ronces, répliqua cette suivante. Ils y en laissent quand elle est mûre et qu'elle commence à tomber. Tout ce canton-là en est plein. Comme la chose avait été concertée, elle réussit. Seulement, au lieu des deux baisers que l'on avait dit, il en coûta quatre. Pendant que notre bergère et notre compagne exécutent leur entreprise, Vénus prie les deux déesses de sonder les sentiments de son fils. Il semble à l'entendre, leur dit-elle, qu'il soit fort en colère contre Psyché. Cependant, il ne laisse pas Soubin de lui donner assistance. Au moins, y a-t-il lieu de le croire. Vous, mes amis, toutes deux, détournez-le de cet amour. Représentez-lui le devoir d'un fils. Dites-lui qu'il se fait tort. Il ouvrira bien plutôt à vous qu'il ne se ferait à sa mère. Junon et Cérès promirent de s'y employer. Elles allèrent voir le malade. Il ne les satisfit point et leur cacha le plus qu'il put sa pensée. Toutefois, autant qu'elles purent conjecturer, cette passion lui tenait encore au cœur. Même il se plaignit de ce qu'on prétendait le gouverner ainsi qu'un enfant. Lui, un enfant, mais on ne considérait donc pas qu'il terrassait les Hercules et qu'il n'avait jamais eu d'autre toupie que leur cœur. Après cela, disait-il, on me tiendra encore en tutelle? On croira me contenter de moulinets et de papillons, moi qui suis le dispensateur d'un bien près de qui la gloire et les richesses sont des poupées? C'est bien le moins que je puisse faire que de retenir ma part de cette félicité-là. Je ne me marierai pas, moi qui en marie tant d'autres. Les déesses entrèrent en ces sentiments et retournèrent dire à Vénus comme leur légation s'était passée. Nous vous conseillons en amis, ajoutèrent-elles, de laisser agir votre fils comme il lui plaira. Il est désormais en âge de se conduire. Mais qu'il épouse Hébé, repartit Vénus, qu'il le choisisse parmi les muses, parmi les grâces, parmi les heures, je le veux bien. Vous moquez-vous, dit Junon. Voudriez-vous donner à votre fils une de vos suivantes pour femme? Et encore Hébé qui nous sert à boire. Pour les muses, ce n'est pas le fait de l'amour qu'une précieuse, elle le ferait enrager. La beauté des heures est fort journalière, il ne s'en accommodera pas non plus. Mais enfin, répliqua Vénus, toutes ces personnes sont des déesses, et Psyché est simple mortelle. N'est-ce pas un parti bien avantageux pour mon fils que la cadette d'un roi de qui les états tourneraient dans la basse-cour de ce château? Ne méprisez pas tant, Psyché, dit Cérès. Vous pourriez pis faire que de la prendre pour votre bru. La beauté est rare parmi les dieux. Les richesses et la puissance ne le sont pas. J'ai beau voyager, comme vous savez, mais je n'ai point vu de personne si accomplie. Junon fut contrainte d'avouer qu'elle avait raison. Et toutes deux conseillèrent Cythéré de pourvoir son fils. Quel plaisir quand elle tiendrait entre les bras un petit amour qui ressemblerait à son père. Vénus demeura piquée de ce propos-là. Le rouge lui monta au front. Cela vous siérait mieux qu'à moi, reprit-elle assez brusquement. Je me suis regardé tout ce matin, mais il m'a pas semblé que j'eusse encore l'air d'une aïeule. » Ces mots ne demeurèrent pas sans réponse, et les trois amis se séparèrent en se querellant. Cérès et Junon étant montés sur leur char, Vénus alla faire des remontrances à son fils. Et le regardant avec un air dédaigneux, « Il vous sied bien, lui dit-elle, de vouloir vous marier, vous qui ne cherchez que le plaisir. Depuis quand vous est venue, dites-moi, une si sage pensée ? Voyez, je vous prie, l'homme de bien, le personnage grave et retiré que voilà. Sans mentir, je voudrais vous avoir vu père de famille pour un peu de temps, mais comment vous y prendriez-vous ? Songez, mais songez à vous acquitter de votre emploi, et soyez le dieu des amants. La qualité d'époux ne vous convient pas. Vous êtes accablé d'affaires de tous côtés. L'empire d'amour va en décadence. Tout languit, rien ne se conclut, et vous consumez le temps des propositions inutiles de mariage. Il y a tantôt 3 mois que vous êtes au lit, plus malade de fantaisie que d'une brûlure. Certes, vous avez été blessé dans une occasion bien glorieuse pour vous. Le bel honneur, lorsqu'on le dira que votre femme aura été cause de cet accident. Si c'était une maîtresse, je ne dis pas. Quoi, vous m'amènerez ici une matrone qui sera 9 mois de l'année à toujours se plaindre? Je la traînerai au bal avec moi? Savez-vous ce qu'il y a? Ou renoncer à Psyché, ou je ne veux plus que vous passiez pour mon fils. Vous croyez peut-être que je ne puis faire un autre amour et que j'ai oublié la manière dont on les fait. Oh, je veux bien que vous sachiez que j'en ferai un quand il me plaira. Oui, j'en ferai un, plus joli que vous 1000 fois, et lui remettrai entre les mains votre empire. Qu'on me donne tout à l'heure cet arc et ces flèches, et tout l'attirail dont je vous ai équipé. Aussi bien vous est-il inutile désormais, je vous le rendrai quand vous serez sage. » L'amour se mit à pleurer, et prenant les mains de sa mère, il les lui baisa. Ce n'était pas encore parlé comme il faut, et elle fit tout son possible pour l'obliger à donner parole qu'il renoncerait à Psyché, ce qu'il ne voulut jamais faire. Si Thérée sortit en le menaçant. Pour achever le chagrin de cette déesse, Psyché arriva avec un paquet de laine aussi pesant qu'elle. Les choses s'étaient passées de ce côté-là avec beaucoup de succès. Le cygne avait merveilleusement bien fait son devoir, et les 2 sylvains le leur. Devoir de courir et rien davantage. Hormis qu'ils dansèrent quelques chansons avec la suivante, lui dérobèrent quelques baisers, lui donnèrent quelques brins de thym et de marjolaine, et peut-être la côte verte, le tout avec la plus grande honnêteté du monde. Psyché, cependant, faisait sa main. Pas un des moutons ne s'écarta du troupeau pour venir à elle. Les ronces se laissèrent ôter leur belle robe sans la piquer une seule fois. Et Psyché repassa la première. À son retour, Sidéré lui demanda comment elle avait fait pour traverser la rivière. Psyché répondit qu'il n'en avait pas été besoin et que le vent avait envoyé des flocons de laine de son côté. « Je ne croyais pas, reprit Cithéré, que la chose fût si facile. Je me suis trompé dans mes mesures, je vois bien. La nuit nous suggéra quelque chose de meilleur. » Le fils de Vénus, qui ne songeait à autre chose qu'à tirer Psyché de tous ses dangers, et qui n'attendait peut-être pour se raccommoder avec elle que sa guérison et le retour de ses forces, avait remandé premièrement le zéphyr et fait venir dans le voisinage une fée qui faisait parler les pierres. Rien ne lui était impossible. Elle se moquait du destin, disposait des vents et des astres et faisait aller le monde à sa fantaisie. Cythérée ne savait pas qu'elle fût venue. Quant au Zéphyr, elle l'aperçut et ne douta nullement que ce ne fût lui qui eût assisté Psyché. Mais s'étant la nuit avisée d'un commandement qu'elle croyait hors de toute possibilité, elle dit le lendemain à son fils « L'agent général de vos affaires n'est pas loin de ce château. Vous lui avez défendu de s'écarter. Je vous défie tous tant que vous êtes. Vous serez habiles gens l'un et l'autre si vous empêchez que votre belle ne succombe au commandement que je lui ferai aujourd'hui. » En disant ces mots, elle fit venir Psyché, lui ordonna de la suivre et l'amena dans la basse-cour du château. Là, sous une espèce de halle, étaient entassés pêle-mêle 4 différentes sortes de grains, lesquels on avait donnés à la déesse pour la nourriture de ses pigeons. Ce n'était pas proprement un tas, mais une montagne. Il occupait toute la largeur du magasin et touchait le faîte. Cythérée dit à Psyché, « Je ne veux dorénavant nourrir mes pigeons que de mil ou de froment pur. C'est pourquoi sépare ces 4 sortes de grains, faisant 4 tas aux 4 coins du monceau, un tas de chaque espèce. Je m'en vais à ma tante pour quelques affaires de plaisir, je reviendrai sur le soir. Si à mon retour je trouve la tâche faite et qu'il y a seulement un grain de mêlé, je t'abandonnerai au ministre de ma vengeance. » À ces mots, elle monte sur son char et laisse Psyché désespéré. En effet, ce commandement était un travail, non pas d'Hercule, mais de démon. Sitôt que l'amour le sut, il en envoya avertir la fée qui, par ses subfumigations, par ses cercles, par ses paroles, contredit tout ce qu'il y avait de fourmis au monde d'accourir alentour du tas, autant celles qui habitaient aux extrémités de la terre que celles du voisinage. Il y eut telle fourmi qui fit ce jour-là 4000 lieues. C'était un plaisir que d'en voir les hordes et les caravanes arrivés de tous côtés. Il en vient des climats où commande l'aurore, de ceux que synthétise et l'océan encore. L'Indien dégardit toutes ses régions. Le garment envoie aussi ses légions. Il en part du coucher des nations entières. Le nord ni le midi n'en sont plus de fourmilières. Il semble qu'on en ait épuisé l'univers. Les chemins en sont noirs, les champs en sont couverts. Maint vieux chêne en fournit des cohortes nombreuses. Il n'est arbre mangé, qui sous ses voûtes creuses souffre que de ce peuple il reste un seul essaim. Tout l'éloge, et la terre en tire de son sein. L'éthiopique jante arrive et se partage. On crée en chaque troupe un maître de l'ouvrage. Il a l'œil sur sa bande. Aucun n'ose faillir. On entend un bruit sourd, le mont semble bouillir. Déjà son tour décroît, sa hauteur diminue. À la soudaineté, l'ordre s'y contribue. Chacun a son emploi parmi les travailleurs. L'un sépare le grain que l'autre emporte ailleurs. Le monceau disparaît ainsi que par machine. 4 tas différents réparent sa ruine. De blé, riche présent qu'à l'homme ont fait les cieux, de mil pour les pigeons, mangés délicieux, de seigle au goût aigret, d'orge rafraîchissante, qui donne aux gens du nord la cervoise engraissante. Telles l'ont démoli les maisons quelquefois, la pierre est mise à part se met le bois, on voit comme fourmis gens autour de l'ouvrage. En son être premier retourne l'assemblage. Là sont des tas de confus de marbre non gravés, et là les ornements qui se sont conservés. Et les fourmis s'en retournèrent aussi vite qu'elles étaient venues et n'attendirent pas le remerciement. Vivez heureuses, leur dit Psyché. Je vous souhaite des magasins qui ne désemplissent jamais. Si c'est un plaisir de se tourmenter pour les biens du monde, tourmentez-vous et vivez heureuses. Quand Vénus fut de retour et qu'elle aperçut les quatre monceaux, son étonnement ne fut pas petit. Son chagrin fut encore plus grand. On n'osait approcher d'elle, ni seulement la regarder. Il n'y eut ni amour ni grâce qui ne s'enfuissent. « Quoi ?» dit Cythérée en elle-même. « Une esclave me résistera. Je lui fournirai tous les jours une nouvelle matière de triompher. Et qui craindra désormais Vénus? Qui adorera sa puissance? Car pour la beauté, je n'en parle plus. C'est Psyché qui en est déesse. Oh, destin, mais que vous ai-je donc fait? Junon s'est vengé d'Io et de beaucoup d'autres. Il n'est femme qui ne se venge. Cythérée seule se voit privée de ce doux plaisir. Si faut-il que j'en vienne à bout? Vous n'êtes pas encore à la fin, Psyché. Mon fils vous fait tort. Plus il s'opiniâtre à vous protéger, plus je m'opiniâtrerai à vous perdre. Cette résolution n'eut pas tout l'effet que Vénus s'était promis. À deux jours de là, elle fit appeler Psyché, et, dissimulant son dépit, « Puisque rien ne vous est impossible, lui dit-elle, vous irez bien au royaume de Proserpine. » Et n'espérez pas m'échapper quand vous serez hors d'ici. En quelque lieu de la terre que vous soyez, je vous trouverai. Si vous voulez toutefois ne pouvoir revenir des enfers, j'en suis très contente. Vous ferez mes compliments à la reine de ces lieux-là, et vous lui direz que je la prie de me donner une boîte de son phare. J'en ai besoin, comme vous voyez. La maladie de mon fils m'a tout changé. Rapportez-moi sans tarder ce qu'on vous aura donné, et n'y touchez point. Psyché partit tout à l'heure. On ne la laissa parler à qui que ce soit. Elle alla trouver la fée que son mari avait fait venir. Cette fée était dans le voisinage sans que personne en sût rien. De peur de soupçons, elle ne tint pas long discours à notre héroïne. Elle lui dit seulement « Vous voyez d'ici une vieille tour, allez-y tout droit et entrez dedans, vous y apprendrez ce qu'il vous faut faire. N'appréhendez point les ronces qui bouchent la porte, elles se détourneront d'elles-mêmes. » Psyché remercie la fée et s'en va au vieux bâtiment. Entrée qu'elle fut, la tour lui parla. « Bonjour, Psyché, lui dit-elle. Que votre voyage vous soit heureux. Ce m'est un très grand honneur de vous recevoir en mes murs. Jamais rien de si charmant n'y était entré. Je sais le sujet qui vous amène. Plusieurs chemins conduisent aux enfers. N'en prenez aucun de ceux qu'on prend d'ordinaire. Descendez dans cette cave que vous voyez et garnissez-vous auparavant de ce qui est à vos pieds. Ce panier à anse vous aidera à le porter. » Psyché baissa aussitôt la vue, et comme le faîte de la tour était découvert, elle vit à terre une lampe, 6 boules de cire, un gros paquet de ficelles, un panier avec 2 deniers. « Vous avez besoin de toutes ces choses, poursuivit la tour, que la profondeur de cette cave ne vous effraie point, quoique vous ayez près de 1000 marches à descendre. Cette lampe vous aidera. Vous suivrez à sa lueur un chemin voûté qui est dans le fond et qui vous conduira jusqu'au bord du Styx. Il vous faudra donner à Charon une de ses derniers deniers pour le passage aussi bien en revenant qu'en allant. C'est un vieillard qui n'a aucune considération pour les belles et qui ne vous laissera pas monter dans sa barque sans payer le droit. Le fleuve passé, vous rencontrerez un âne boiteux et n'en pouvant plus de vieillesse, avec un misérable qui le chassera. Celui-ci vous priera de lui donner par pitié un peu de ficelle, et si vous en avez dans votre panier, afin de lier certains paquets dont son âne sera chargé. Gardez-vous de lui accorder ce qu'il vous demandera. C'est un piège que vous tend Vénus. Vous avez besoin de votre ficelle à une autre chose, car vous entrerez un continent dans un labyrinthe dont les routes sont fort aisées à tenir en allant. Mais quand on en revient, il est impossible de les démêler. Ce que vous ferez toutefois par le moyen de cette ficelle. La porte de ça du labyrinthe n'a point de portier. Celle de là en a un. C'est un chien qui a trois gueules, plus grand qu'un ours. Il discerne en odorat les morts avec les vivants, car il se rencontre des personnes qui ont affaire aussi bien que vous en ces lieux. Le portier laisse passer les premiers et étrangle les autres devant qu'ils passent. Vous lui empâtrez ces trois gueules en lui jetant dans chacune de vos boules de cire, et autant en retour. Elles auront aussi la force de l'endormir. Et dès que vous serez sorti du labyrinthe, deux démons des Champs-Élysées viendront au-devant de vous et vous conduiront jusqu'au trône de Proserpine. Voilà, adieu, charmante Psyché, et que votre voyage vous soit heureux. Psyché remercie la tour, prend le panier avec l'équipage, descend dans la cave et, pour abréger, elle arrive saine et sauve au-delà du labyrinthe, malgré les spectres qui se présentèrent sur son passage. Il ne sera pas hors de propos de vous dire qu'elle vit sur les bords du Styx, gens de tous états arrivant de tous les côtés. Il y avait dans la barque, lorsque la belle passa, un roi, un philosophe, un général d'armée, je ne sais combien de soldats, avec quelques femmes. Le roi se mit à pleurer de ce qu'il fallait quitter un séjour où étaient de si beaux objets. Le philosophe, au contraire, loua les dieux de ce qu'il était sorti avant que de voir un objet si capable de le séduire et dont il pouvait alors approcher sans aucun péril. Les soldats disputèrent entre eux à qui s'assirait le plus près d'elle, sans aucun respect du roi ni aucune crainte du général qui n'avait pas son bâton de commandement. La chose allait à se battre et à renverser la nacelle si Caron eût mis le holà à coups d'aviron. Les femmes environnèrent Psyché et se consolèrent des avantages qu'elles avaient perdus, voyant que notre héroïne en perdait bien d'autres, car elle ne dit à personne qu'elle fût vivante. Son habit étonna pourtant la compagnie, tous les autres n'ayant qu'un drap. Aussitôt qu'elle fut sortie du labyrinthe, les deux démons l'abordèrent et lui firent voir les singularités de ces lieux. « Elles sont tellement étranges que j'ai besoin d'un style extraordinaire pour vous les décrire. » Polyphile se tut à ces mots, et après quelques moments de silence, il reprit d'un ton moins familier. Le royaume des morts a plus d'une avenue. Il n'est route qui soit aux humains si connue. Des quatre coins du monde, on se rend aux enfers. Tisiphone les tient incessamment ouverts. La faim, le désespoir, les douleurs, le long âge mènent par tous endroits ce triste passage. Et quand il est franchi, les filles du destin filent aux habitants une nuit sans matin. Orphée a toutefois mérité par sa lyre de voir impunément le ténébreux empire, et Psyché par ses appâts obtint même faveur. Pluton sentit pour elle un moment de ferveur. Proserpine craignit de se voir détrônée et la boîte de phare à l'instant fut donnée. L'esclave de Vénus, sans guide et sans secours, arriva dans les lieux où le Styx fait son cours. Sa cruelle ennemie eut soin que le Cerbère lui lança des regards enflammés de colère. Par les monstres d'enfer, rien ne fut épargné. Elle vit ce qu'en ont tant d'auteurs enseigné, mille spectres hideux, les hydres, les harpies, les triples gérions, les mânes des titis, présentaient à ses yeux un main fantôme trompeur, dont le corps retournait aussitôt en vapeur. Les cantons dessinés aux ombres criminelles, leurs cris, leurs désespoirs, leurs douleurs éternelles, tout l'attirail qui suit au tout tard les méchants, la remplir de crainte et d'horreur pour ses chants. Là, sur un pont d'airain, l'orgueilleux Salmoné, triste chef d'une troupe aux tourments condamnée, s'efforçait de passer en des lieux moins cruels, et partout rencontrait des feux continuels. Tantale, aux eaux du Styx, portait en vain sa bouche, toujours proche d'un bien que jamais il ne touche. Et Sisyphe, en sueur, essayait vainement d'arrêter son rocher, pour le moins un moment. Là, les sœurs de Psyché, dans l'importune glace d'un miroir que sans cesse elles avaient en face, revoyaient leur cadette heureuse, et dans les bras, non d'un monstre effrayant, mais d'un dieu plein d'âme. En quelque lieu qu'alla cette gence maudite, le miroir se plaçait toujours à l'opposite. Pour les tirer d'erreur, leur cadette accourut. Mais ce couple s'enfuit sitôt qu'elle parut. Non loin d'elle, Psyché vit l'immortelle tâche où les 50 sœurs s'exercent sans relâche. La belle les plaignit et ne put sans frémir voir tant de malheureuses occupées à gémir. Chacun trouvait sa peine au plus haut point monté. Ixion, sous tout elle sort de Pométhée, Tantale eût consenti pour assouvir sa faim que plutôt le livra à des flammes sans fin. En un lieu séparé, l'on voit ceux de Gliam à violer les droits de l'amoureuse flamme, offenser Cupidon, mépriser ses autels, refuser le tribut qu'il impose aux mortels. Là souffre un monde entier d'ingrates, de coquettes. La mégère punit les langues indiscrètes, surtout ceux qui, tachés du plus noir des forfaits, se sont vantés d'un bien qu'on ne leur fit jamais. Par de cruels vautours, l'inhumaine est rongée. Dans un fleuve glacé, la volage est plongée. Et l'insensible expire en des lieux embrasés, aux yeux de ses amants, les maux qu'elle a causés. Ministre, confident, domestique perfide, il lasse sous les fouets les bras des Euménides. Près d'eux sont les auteurs de maint hymen forcé, l'amant chiche et la dame au cœur intéressé, la troupe des censeurs, peuple à l'amour rebelle, ceux enfin dont les vers ont noirci quelques belles. Vénus avait obligé Mercure par ses caresses de prier de la part de cette déesse toutes les puissances d'enfer, d'effrayer tellement son ennemi par la vue de ses fantômes et de ses supplices qu'elle en mourut. Qu'elle en mourut d'appréhension, et qu'elle mourut si bien que la chose fut sans retour, et qu'il ne resta plus de cette beauté qu'une ombre légère. Après quoi, disait Cythéré, je permets à mon fils d'en être amoureux et de l'aller trouver aux enfers pour lui renouveler ses caresses. Cupidon ne manqua pas d'y pourvoir, et dès que Psyché eut passé le labyrinthe, il la fit conduire, comme je crois vous avoir dit, par deux démons des Champs-Élysées. Ceux-là ne sont pas méchants. Ils la rassurèrent et lui apprirent quels étaient les crimes de ceux qu'elle voyait tourmentés. La belle en demeura toute consolée, n'y trouvant rien qui eût du rapport à son aventure. Après tout, la faute qu'elle avait commise ne méritait pas une telle punition. Si la curiosité rendait les gens malheureux jusqu'en l'autre monde, il n'y aurait pas d'avantage à être femme. En passant auprès des Champs-Élysées, comme le nombre des bienheureux a de tout temps été fort petit, Psyché n'eut pas de peine à y remarquer ce qui jusqu'alors avait fait valoir la puissance de son époux, Jean du Parnasse pour la plupart. Ils étaient sous de beaux ombrages, se récitant les uns aux autres leur poésie et se donnant des louanges continuelles, sans se lasser. Enfin, la belle fut amenée devant le tribunal de Pluton. Toute la cour de ce dieu demeura surprise. Depuis Proserpine, il ne se souvenait point d'avoir vu d'objet qui leur eût touché le cœur que celui-là seul. Proserpine même en eut de la jalousie, car son mari regardait déjà la belle d'une autre sorte qu'il n'a coutume de faire ceux qui approchent de son tribunal, et il ne tenait pas à lui qu'il se défie de cette terre terrible qui fait partie de son apanage. Surtout, il y avait du plaisir à voir Radamante se radoucir. Pluton fit cesser pour quelques moments les souffrances et les plaintes des malheureux, afin que Psyché eût une audience plus favorable. Voici, à peu près, comme elle parla, adressant sa voix tantôt à Pluton et à Proserpine conjointement, tantôt à cette déesse seule. Vous, sous qui tout fléchit, déité dont les lois traitent également les bergers et les rois, ni le désir de voir, ni celui d'être vu ne me font visiter une cour inconnue. J'ai trop appris, hélas, par mes propres malheurs, combien de tels plaisirs engendrent de douleurs. Vous voyez devant vous l'esclave infortuné qu'à des larmes sans fin Vénus a condamné. C'est peu pour son courroux des maux que j'ai souffert. Il faut chercher encore un phare jusqu'aux enfers. Reine de ces climats, faites qu'on me le donne. Il porte votre nom, et c'est ce qui m'étonne. Ne vous offensez point, déesse aux traits si doux. On s'aperçoit assez qu'il n'est pas fait pour vous. Plaire sans phare est chose aux déesses faciles. À qui ne peut vieillir, cet art est inutile. C'est moi qui dois tâcher, en l'état où je suis, à réparer le tort que m'ont fait les ennuis. Mais j'ai quitté le soin d'une beauté fatale. La nature souvent n'est que trop libérale. Plutôt sort que mes traits, à présent sans éclat, n'eussent jamais paru que dans ce triste état. Mes sœurs les enviaient, que mes sœurs étaient folles. D'abord je ne repus d'espérance frivole, enfin l'amour m'aima. Je l'aimais sans le voir. Je le vis, il s'enfuit. Rien ne put l'émouvoir. Il me précipita du comble de la gloire, souvenir de ces temps, oh, sortez de ma mémoire. Chacun sait ce qui suit. Maintenant, dans ces lieux, je viens pour obtenir un phare si précieux. Je n'en mérite pas la faveur singulière, mais le nom de l'amour se joint à ma prière. Vous connaissez ce dieu qui ne le connaît pas. S'il descend pour vous plaire au fond de ces climats, d'une botte de phare récompenser sa femme. Ainsi durent chez vous les douceurs de sa flamme. Ainsi notre bonheur puisse rendre envieux celui qui pour sa part eut l'empire des cieux. Cette harangue eut tout le succès que Psyché pouvait souhaiter. Il n'y eut ni démon ni ombre qui ne compatît au malheur de cet affligé et qui ne blâma Vénus. La pitié entra pour la première fois au cœur des furies, et ceux qui avaient tant de sujets de se plaindre eux-mêmes mirent à part le sentiment de leurs propres maux pour plaindre l'épouse de Cupidon. Pluton fut sur le point de lui offrir une retraite dans ses états, mais c'est un asile où les malheureux n'ont recours que le plus tard qu'il leur est possible. Proserpine empêcha ce coup. La jalousie la possédait tellement que, sans considérer qu'une ombre serait capable de lui nuire, elle recommanda instamment au parc de ne pas trancher à l'étourdi les jours de cette personne et de prendre si bien leurs mesures qu'on ne la revit aux enfers que vieille et ridée. Puis, sans tarder davantage, elle mit entre les mains de Psyché une boîte bien fermée, avec défense de l'ouvrir, et avec charge d'assurer Vénus de son amitié. Pour Pluton, il ne put voir sans déplaisir le départ de notre héroïne et le présent qu'on lui faisait. « Souvenez-vous, lui dit-il, de ce qu'il vous a coûté d'être curieuse. Allez, et n'accusez pas Pluton de votre destin. Tant que le pays des morts continua, la boîte fut en assurance. Psyché n'avait garde d'y toucher. Elle appréhendait que, parmi un si grand nombre de gens qui n'avaient que faire, il y en eût qui observassent ses actions. Aussitôt qu'elle eut atteint notre monde, et que se trouvant sous ce conduit souterrain, elle crut n'avoir pour témoin que les pierres qui le soutenaient, la voilà tentée à son ordinaire. Elle eut envie de savoir quel était ce phare dont Proserpine l'avait chargé. Le moyen de l'en empêcher, elle serait femme et laisserait échapper une telle occasion de se satisfaire. À qui le diraient ces pierres? Possible, personne qu'elle n'était descendue sous cette voûte depuis qu'on l'avait bâtie. Puis ce n'était pas une simple curiosité qui la poussait. C'était un désir naturel et bien innocent de remédier aux déchets où étaient tombés ses appâts. Les ennuis, le hall, mille autres choses l'avaient tellement changée qu'elle ne se reconnaissait plus elle-même. Il fallait abandonner les prétentions qui lui restaient sur le cœur de son mari ou bien réparer ses pertes par quelques moyens. Et où en trouverait-elle un meilleur que celui qu'elle avait en sa puissance que de s'appliquer un peu de ce fard qu'elle portait à Vénus? Non qu'elle eût dessein d'en abuser ni de plaire à d'autres qu'à son mari, les dieux le savaient. Pourvu seulement qu'elle imposât à l'amour, cela suffirait. Tout artifice est permis quand il s'agit de regagner un époux. Si Vénus l'avait cru si simple que de l'oser toucher à ce cher phare, elle était fort trompée. Mais qu'elle y touchât ou non, Cythéré l'en soupçonnerait toujours, ainsi lui serait inutile de s'en abstenir. Psyché raisonna si bien qu'elle s'attira un nouveau malheur. Une certaine appréhension toutefois la retenait. Elle regardait la boîte, y portait la main, puis l'en retirait, et l'y reportait aussitôt. Après un combat qui fut assez long, la victoire demeura, selon sa coutume, à cette malheureuse curiosité. Psyché ouvrit la boîte en tremblant, et à peine l'eut-elle ouverte, qu'il en sortit une vapeur fuligineuse, une fumée noire et pénétrante, qui se répandit en moins d'un moment par tout le visage de notre héroïne et sur une partie de son sein. L'impression qu'elle y fit fut si violente que Psyché soupçonna d'abord quelque sinistre accident, d'autant plus qu'il ne restait dans la boîte qu'une noirceur qui l'atteignait toute. Psyché, alarmée, et se doutant presque de ce qui lui était arrivé, se hâta de sortir de cette cave, impatient de rencontrer quelque fontaine dans laquelle elle put apprendre l'état où cette vapeur l'avait mise. Quand elle fut dans la tour et qu'elle se présenta à la porte, les épines qui la bouchaient et qui s'étaient d'elles-mêmes détournées pour laisser passer Psyché la première fois, ne la reconnaissant plus, l'arrêtèrent. La tour fut contrainte de lui demander son nom. Notre infortunée le lui dit en soupirant. « Quoi, c'est vous, Psyché? Qui vous a teint le visage de cette sorte? Allez vite vous laver et gardez bien de vous présenter en cet état à votre mari. » Psyché coura un ruisseau qui n'était pas loin, le cœur lui battant de telle manière que la laine lui manquait à chaque pas. Enfin, elle arriva sur le bord de ce ruisseau et, s'étant penchée, elle y aperçut la plus belle mort du monde. Elle n'avait ni le nez ni la bouche comme l'ont celles que nous voyons, mais enfin c'était une mort. Psyché, étonnée, tourna la tête pour voir si quelque africaine ne se regardait point derrière elle. N'ayant vu personne et certaine de son malheur, les genoux commencèrent à lui faillir, les bras lui tombèrent. Elle essaya toutefois inutilement d'effacer cette noirceur avec l'onde. Après s'être lavée longtemps sans rien avancer, Oh, destin, s'écria-t-elle, me condamnerez-vous à perdre ainsi la beauté? Si terré, quelle satisfaction vous attend! Quand je me présenterai parmi vos esclaves, elles me rebuteront. Je serai le déshonneur de votre cour. Mais qu'ai-je fait qui mérita une telle honte? Ne vous suffit-il pas que j'eusse perdu mes parents, mon mari, les richesses, la liberté, sans perdre encore l'unique bien avec lequel les femmes se consolent de tous leurs malheurs? Quoi, ne pouviez-vous attendre que les années vous vengeassent? C'est une chose si tôt passée que la beauté des mortels. La mélancolie serait venue au secours du temps. Mais j'ai tort de vous accuser. C'est moi seul qui suis la cause de mon infortune. C'est cette curiosité incorrigible qui, non contente de m'avoir étonné les hommes grâce de votre fils, m'ôte aussi le moyen de les regagner. Hélas, ce sera le fils le premier qui me regardera avec horreur et qui me fuira. Je l'ai cherché par tout l'univers et j'appréhende de le trouver. Quoi ? Mon mari qui me fuira, mon mari qui me trouvait si charmante. Non, non, Vénus, vous n'aurez pas ce plaisir. Et puisqu'il m'a défendu d'avancer mes jours, je me retirerai dans quelque désert où personne ne me verra. J'achèverai mes destins parmi les serpents et parmi les loups. Il s'en trouvera bien quelqu'un d'assez pitoyable pour me dévorer. Dans ce dessein, elle court à une forêt voisine, s'enfonce dans le plus profond, choisit pour principale retraite un antre effroyable. Là, son occupation est de soupirer et de répandre des larmes. Ses joues s'aplatissent, ses yeux se cavent. Ce n'était plus celle de qui Vénus était devenue jalouse. Il y avait au monde tel mortel qu'il aurait regardé sans envie.